Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Avec ce sondage, pour commencer à la une, les 3/4 des Français ont une bonne image de la police. Alors quand on a posé ce chiffre, quelle réalité y a-t-il derrière ? 76% d'entre nous faisons confiance en ces hommes et en ces femmes pour nous protéger. Des citoyens pourtant partagés sur l'attitude des forces de l'ordre pendant les mouvements des Gilets jaunes. Je reçois aujourd'hui des pointures, des spécialistes pour vous en parler. Ex-grand flic de la PJ au RAID, commandant de police en situation aussi, ils témoigneront du terrain et de l'image du policier dans la société ces 30 dernières années. Et puis à 10h, à l'occasion des 10 ans d'un collectif qui éduque au bon usage des jeux vidéo, on s'interroge sur leur intérêt pour les enfants et les jeunes, mais aussi sur les risques évidemment d'addiction. Comment pratiquer ces jeux en toute sérénité ? Vous êtes parents, vous êtes ados, vous êtes joueurs, gamers comme on dit, et bien cette émission qui recueille vos témoignages est faite pour vous, témoignages qu'on attend dès maintenant au standard.
Au 39 21 50 centimes la minute. Et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
C'est parti jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Un tour de la question sur l'image de la police chez les Français dans l'opinion publique. Pour démarrer cette réflexion, je vais vous donner quelques chiffres. Plus de 3 mois de mobilisation des Gilets jaunes chaque samedi dans des dizaines de communes de France. Paris en étant l'incarnation, vous le savez, avec des méthodes de force de l'ordre critiquées, parfois vivement, on va y revenir. Et malgré tout, le chiffre suivant, 76% des Français font confiance en leur police. Bonjour Christophe Rouget.
Bonjour.
Vous êtes commandant de police, vous avez suivi ces mouvements également pour nous, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. J'accueille l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le député de La République En Marche, de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, aujourd'hui. Vous avez aussi donc un œil social et politique sur ces mouvements. Et Olivier Norek, dont le parcours est intéressant. Bonjour Olivier Norek. Aujourd'hui écrivain, vous êtes en disponibilité de la police, ancien de la PJ du 93, lieutenant à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Et vous écrivez, vous avez sorti il y a quelques jours un nouveau roman, Surface, quand une certaine partie de la réalité que vous avez vécue recueille vos commentaires sur la fiction. D'abord, messieurs, tous les trois, comment analysez-vous ce chiffre ? 76% des Français font confiance en leur police. Est-ce qu'il vous rassure, au fond, Christophe Rouget ?
C'est une constante, ce chiffre. Mmh. On a toujours eu une bonne appréciation de la part de la population envers sa police, même si aujourd'hui le climat est compliqué, parce qu'on est 4 mois d'un conflit social qui est difficile, avec beaucoup de services d'ordre qui ne sont pas favorables à l'image de la police nationale. Je crois que les gens voient le travail des policiers, voient que tous les jours nous avons des policiers qui sauvent des vies. Je repense aux Champs-Élysées lorsqu'il y a eu l'incendie, encore à ce jeune CRS l'autre jour à Marseille qui, au péril de sa vie, est allé sauver des personnes dans un immeuble. Donc les Français voient ce travail au quotidien et apprécient leur police et les forces de l'ordre depuis de nombreuses années.
Ça veut dire aussi, Jean-Michel Fauvergue, que ceux qui ont mis en avant une forme de violence policière, de dérive, on pourra en parler, sont bien minoritaires dans une société qui, dans son ensemble, fait confiance à la police, police nationale, municipale de proximité, on va y venir.
Oui, c'est-à-dire que surtout ce qu'on voit, c'est les gens qui s'expriment contre la police se sont beaucoup exprimés ces derniers temps, et ça a brouillé l'image. On a pu avoir une image fausse d'une police et d'une gendarmerie qui était une police et une gendarmerie violente. Or, je rappelle que à chaque fois, sur des maintiens d'ordre en particulier, puisqu'on est en train de parler de ça aussi, sur des maintiens d'ordre, la police et la gendarmerie ne réagissent que si elles sont agressées sur les points. Et elles réagissent avec les moyens qu'elles ont. Et à chaque fois qu'il y a des blessés, parce que le maintien de l'ordre, comme d'autres opérations de police, c'est quelque chose qui n'est pas vain. Il peut y avoir des blessés. À chaque fois qu'il y a des blessés, il y a enquête contre les policiers, enfin contre. Il y a une enquête qui est menée pour savoir comment les policiers ont réagi, comment les gendarmes ont réagi, ce qui n'est pas le cas en face. Donc je pense que c'est une constante, ces sondages-là, c'est une constante, mais la réalité, elle est plus subtile. Ces derniers temps, la police et la gendarmerie ont beaucoup été attaquées, on a surtout vu et entendu un peu partout des gens qui l'a critiqué et qui sont sans doute, et qui sont pas sans doute, qui sont minoritaires dans notre pays.
Oui, déjà deux choses. 60% des sondés pensent que les blessures de certains manifestants étaient inévitables, pour en revenir à la riposte un peu graduée. Et puis sur les enquêtes, je veux faire un petit point aussi circonstancié. Christophe Castaner l'a annoncé en avril dernier, 199 enquêtes dans la police nationale, 10 enquêtes pour la gendarmerie nationale, justement pour en savoir davantage sur ces éventuelles dérives. Olivier Norek, vous avez passé, vous, 18 ans dans la police, à la PJ.
Oui.
Vous aviez quel rapport avec la population? Je vais faire un terme assez générique, que vous rencontriez.
Oui, alors moi je veux bien revenir effectivement sur ces histoires de policiers comme béquilles de l'État. Je suis ravi d'entendre que effectivement 76% des Français nous apprécient, parce que on en a bien besoin. Il y a un réflexe du policier comme béquille, c'est-à-dire les gilets jaunes, on va y mettre les policiers. La jungle de Calais, on va y mettre les policiers. Et j'ai l'impression que ça justifie, en fait, ça facilite une attente. Voilà, si on ne sait pas quoi faire, on va y mettre les policiers.
D'abord,
c'est pas tant que ça rassure, c'est que
c'est
ça,
le bras
ça
leur, armé ça, de la République.
C'est ça, ça leur laisse le temps de prendre de l'élan pour prendre une décision. Parce qu'on sait bien que, et c'est de tout temps et de tout gouvernement, que dans ce genre de grandes manifestations, ce qu'on attend, c'est le pourrissement, c'est la fatigue. En se disant, ils vont bien arrêter à un moment donné. Sauf que non, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'ils n'arrêtent pas, et ça fait 3 mois que les seules personnes qu'on met devant, ce sont des policiers. On a fait la même chose dans la jungle de Calais. Et nos policiers sont fatigués, nos policiers sont déprimés, et on a une vague de suicides record historique dans nos rangs.
Oui.
Parce que c'est pas l'ADN du flic de gazer tous les week-ends, c'est pas l'ADN du flic de gazer des hommes, des femmes, des enfants, des manifestants. L'ADN du policier, c'est la protection du citoyen. Ce qui fait qu'on a un policier qui est fatigué, en plus de ça, moralement et physiquement fatigué, et donc on rentre dans une période qui est effectivement assez sombre, et comme je le disais, un record historique des suicides.
Policier un jour, policier toujours, parce que vous continuez à dire nous, dans nos rangs.
Hein.
Oui,
vous
vous incluez encore dans
d'ailleurs,
ce
plateau. D'ailleurs, ce plateau est totalement corporate, je pense qu'on dira pas beaucoup de mal des policiers. Bon, mais c'est pas ma voix qui va aller dans l'autre
et
sens, parce que oui, effectivement, policier
but,
un jour,
hein,
policier
voilà.
toujours.
Le tour de la question, c'est de comprendre aussi ce qu'il y a derrière, même si en effet, un Français sur cinq ne fait pas confiance à la police, donc on parlera de ce chiffre-là. Des chiffres qui s'appuient, et puisque vous sortez un livre demain, Jean-Michel Fauvergue, exactement sur ce thème, qui s'appuie sur un climat d'insécurité. La sécurité des Français en question, vous publiez chez Michel Lafon, climat d'insécurité qui n'est plus forcément lié uniquement à la peur des attentats, mais un climat d'insécurité générale, insécurité, incivilité, c'est ça que vous entendez aussi dans cette enquête ?
Oui, c'est pas une enquête, hein, c'est un livre programmatique.
Oui.
C'est
le député qui parle aussi.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est un livre politique, hein, je le reconnais, qui s'appuie sur du vécu et qui s'appuie sur non seulement mon vécu, mais sur le vécu de beaucoup de mes collègues policiers, de mes ex-collègues policiers, de magistrats, etc. Oui, on est dans une insécurité importante, qui n'est pas forcément croissante. Elle croît sur un certain nombre d'items, elle baisse sur d'autres. On est dans un sentiment d'insécurité, la population a un sentiment d'insécurité qui lui est croissant. Parce qu'il est développé par les choses qui se passent, il est développé aussi par les caisses de résonance que sont les médias, les réseaux sociaux, etc., par tout ce qu'on voit, et puis sans doute que les derniers mois ont rajouté de l'inquiétude à l'inquiétude. Et donc, il faut arriver à travailler là-dessus. Donc, il faut changer un peu nos manières de voir les choses sur un certain nombre de domaines criminels, terroristes, immigration, stup, surtout, et essayer de voir comment on peut faire autrement. Et en particulier, comment on peut réformer ce ministère de l'Intérieur et les forces de sécurité intérieure pour mieux être présents sur le terrain.
Avec un budget peut-être qui va avec et qui croît en parallèle. On en parle avec votre livre programmatique qui sort aujourd'hui, La sécurité des Français. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et aujourd'hui député, avec Olivier Norek, écrivain, scénariste français, capitaine de police, hein, toujours capitaine de police. Avec nous, Christophe Rouget, commandant de police, jusqu'à 10h. N'hésitez pas à nous dire quel lien vous entretenez aussi avec la police, quelle confiance vous lui faites, et la police derrière ce terme, qu'est-ce qui se cache, quels hommes et quelles femmes. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Quel
liens entretiennent les Français avec leur police? On fait le tour de la question jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
C'est pas un métier comme les autres. Regardez quand vous arrivez à la maison, que vous allumez la télé, le nombre de fictions, de séries policières, de téléfilms policiers, l'engouement pour les polars aussi. Olivier Norek qui est avec nous, ancien de l'APJ, en est un représentant. Presque 80 000 exemplaires de son précédent roman. Surface qui sort il y a quelques jours, fondé aussi sur son ressenti de flic. Christophe Rouget, vous êtes commandant de police. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Vous voyez cette folie aussi des Français pour toutes ces fictions, télé, littéraires, Christophe?
Tout à fait. Vous savez, moi, j'ai travaillé en brigade criminelle et vous rentrez le soir, comme vous l'avez dit, vous voyez des feuilletons avec des équipes aux États-Unis qui vont tout résoudre en une fraction de seconde en appuyant sur un bouton. C'est magnifique et c'est la distorsion entre notre métier et la réalité. Et lorsque vous rentrez, que vous voyez ça, il n'y a pas de paperasserie, il n'y a pas de tâches indues, il n'y a rien de tout ça. Ouais. C'est magnifique. On a toute la dernière technologie et donc il y a un décalage.
Donc vous rêvez devant ces feuilletons aussi, vous?
Nous rêvons. Hein, et c'est pas le travail qu'on a fait dans la journée. Ça crée aussi, il faut le reconnaître, une distorsion entre la réalité, ce que l'imaginaire de la police et le quotidien que vivent nos collègues sur le terrain, qui n'est pas le même, qui est beaucoup plus compliqué, qui est avec des difficultés qu'on n'aperçoit pas dans tout ce cinéma, ces séries.
On n'a jamais croisé un vrai commissaire Navarro, ni une Julie Lescaut, ni encore moins un capitaine de gendarmerie comme capitaine Marlowe, qui pourtant bat des records d'audience, Olivier Norek. Non, mais il y a des personnalités évidemment fortes dans la police.
Oui, bien sûr. Alors oui, il y a des personnalités fortes qui ont donné des héros. Par exemple, le commissaire Maigret, il a existé. Mais c'est vrai qu'il y a 40% à peu près, 35% de la fiction française qui est axée autour de la police. Et des enquêtes de police et des reportages sur la police, si bien qu'on devrait quand même pouvoir toucher des royalties sur tout ça, ce serait pas mal, ça nous aiderait à avoir des nouvelles bagnoles.
Ouais, c'est ça.
mais c'est vrai qu'il y a cette distorsion entre le fait que la police, comme bras armé de l'État, génère des animosités, mais comme fait culturel ou comme fait de divertissement, attire vraiment tout le monde.
Ouais.
Et effectivement, la plupart des séries sont un tout petit peu à côté de la plaque, mais après, il faut savoir choisir les bonnes. Mmh. Par exemple, pour la DGSI, le Bureau des légendes, c'est juste parfait.
Ouais.
Pour la police judiciaire, Engrenage, ça l'est aussi.
Après, les Braco de Marshall étaient aussi très appuyés sur des faits un peu plus fictionnés quand même.
Oui, ouais. Oui, effectivement. Après, il faut enlever un petit peu le côté un peu hollywoodien de Braco.
Ouais.
C'est vrai qu'on n'a malheureusement pas des Porsche Cayenne.
Un peu noir, un peu sombre.
Ouais. On aurait adoré, hein, mais on n'a pas de Porsche Cayenne.
Sûr, ouais.
Et puis, il y a ce côté un peu flic fatigué que moi, je combats dans la plupart de mes romans.
Ouais.
Un flic, c'est comme un sportif de haut niveau. Un flic, il va voir le pire de l'homme. Il va voir la société en faille. Il va voir l'autre en cassure. Et si lui, il n'a pas les épaules solides, s'il n'a pas la tête bien posée sur ses épaules, il va vriller, ça va devenir un mauvais policier. Un policier, ça doit être quelqu'un qui... voilà, c'est des flics qui vont bien avec le monde autour qui tourne mal. Et si les flics se mettent aussi à tourner mal, c'est très complexe. Donc voilà, ce flic torturé, aigri, cabossé, c'est pas un atout dans une équipe.
Oui, j'entends, évidemment, ça attire peut-être le téléspectateur, mais c'est plus compliqué que ça, Jean-Michel Fauvergue. Vous avez cette lecture aussi de l'engouement des Français qui traduit peut-être aussi le chiffre que nous mettons en avant, 76% des Français qui font confiance à la police, et ça passe parfois aussi par la médiatisation de ce métier dans la fiction.
Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose que d'avoir ces séries et ces livres et ces excellents livres. Moi je me suis d'ailleurs régalé à la lecture de l'avant-dernier livre d'Olivier, je tiens à le dire.
Sur la jungle de Calais, ouais, entre deux mondes.
Oui, ouais, c'est un livre extraordinaire et je le conseille vivement.
Merci.
Mais c'est important d'avoir ces fictions-là. Ça permet de s'évader un peu et ça et sans doute ça façonne l'image des policiers. Mais on n'est pas dans la réalité du terrain, il faut le savoir, c'est que tout est facile, les enquêtes en trois quarts d'heure sont bouclées, c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Je suis toujours frappé de la manière dont les policiers s'entendent bien dans ces séries-là, à tel point que moi je me rappelle dans les séries Cold Case, pour ne pas la citer, il y a une équipe et ils font une phrase à eux tous, c'est-à-dire il y en a un qui a le verbe votre sujet, votre le complément.
Ils sont tellement en phase.
Ils sont tellement en phase que voilà. C'est pas comme ça dans la réalité. Vous avez des problèmes qui sont des problèmes du réel. La police et la gendarmerie, d'ailleurs, c'est des boulots de violence. On est confronté tout le temps à la violence qui nous impacte de manière très forte. Et il faut cette violence-là, il faut la digérer. Et quelle que soit la position dans laquelle on est, y compris dans le maintien d'ordre, c'est-à-dire il faut non seulement la digérer, mais les gens nous demandent aussi demandent aux policiers d'être parfaits, d'être des surhommes et de ne pas réagir de la manière dont les autres réagissent.
Sachant qu'il y a, Jean-Michel Fauvergue, aussi une violence administrative, et on va y venir aussi, alors que Sylvie veut vous rendre hommage dans un instant, des rémunérations insuffisantes, des conditions de travail dégradées, un budget trop maigre, un reliquat de 23 millions d'heures supplémentaires impayées, qui fait de l'État un des plus mauvais payeurs sur ce corps pourtant si important, ce corps républicain de la sécurité. La police est en question, nous interrogeons nos liens et les liens que vous avez avec ces hommes et ces femmes qui sont là pour vous servir, pour vous défendre, pour vous protéger. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La Monnaie de Paris vous présente ses pièces de 10 euros argent de la série Pièces d'Histoire. Avec la participation de Stéphane Bern, cette collection retrace l'histoire de France à travers 9 monnaies historiques du patrimoine français. Pour chaque pièce achetée, 1 euro sera versé à la Fondation du Patrimoine pour la mission Patrimoine de Stéphane Bern. Ces pièces sont disponibles à la poste et sur internet monnaiedeparis.fr. Une série limitée à offrir ou à s'offrir dès maintenant. Jusqu'à 10h sur Europe 1, nous explorons le monde de la police en laquelle vous avez confiance au quotidien pour 76% d'entre vous, donc 3/4 de la population, mais qui connaît un malaise réel, ce monde de la police.
Absolument, on va revenir sur les conditions de travail dégradées, sur le taux de suicide 36 fois plus élevé que dans le reste de la population. Mais rendons hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui servent dans la police. Sylvie, je vais vous donner la parole tout de suite au 39-21, le temps de vous représenter nos invités. Christophe Rouget, commandant de police et secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Olivier Norek est capitaine de police en disponibilité, aujourd'hui écrivain et scénariste. Il a sorti la semaine dernière son dernier roman, Enquête policière, Surface. Et Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du RAID, député La République en marche de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, qui livre un livre programmatique sur la sécurité des Français, qui sort aujourd'hui aux éditions Michel Lafon. La police qui, à chaque crise sociale, morale, politique, est là, et à chaque fois, les liens entre les Français et la police sont réinterrogés. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Et merci de prendre la parole pour échanger avec nos invités, pour nous dire ce que vous en pensez aussi de ce lien de confiance. Vous nous appelez de Valence, et je vous laisse réagir Sylvie.
En fait, j'appelais parce que, si vous voulez, j'ai deux choses qui m'ont toujours étonnée. À savoir la première, par exemple, quand il y a eu le problème de Charlie Hebdo, les Français sont descendus dans la rue, ont embrassé les policiers, les ont pris dans leurs bras. Bon. Et puis, 15 jours plus tard, il y a eu, je crois, une manifestation et on parlait, a priori, qu'il y avait eu des problématiques avec la police. Et là, les Français leur ont craché dessus. Donc, moi, je me dis, c'est pas possible. Vous pouvez pas un jour embrasser des personnes et le lendemain, les mettre plus bas que terre. C'est des gens qui font leur travail. C'est pas toujours facile, il faut accepter qu'ils fassent des fois des erreurs, mais on peut pas un coup dire oui et un coup dire non. Moi, ce sont des gens, franchement, je leur rends hommage, parce qu'ils ont un travail difficile dans des conditions vraiment qui sont des fois exécrables, et en plus, ils sont pas toujours reconnus ni par la population, ni par les journalistes, ni par la justice. C'est ce que je racontais tout à l'heure à votre assistant. Moi, j'ai été cambriolée au mois de novembre. Les policiers sont intervenus très rapidement grâce au témoignage en fait d'un voisin qui a vu les voleurs rentrer chez moi. Donc ils ont été arrêtés. La police a fait une enquête et ils ont démontré rapidement que c'était des jeunes mineurs de l'Est qui étaient donc rentrés chez moi, qui avaient déjà sévi dans la région. Ils ont été donc arrêtés, jugés en fait immédiatement. Et le procureur, gentiment, malgré, les faits, qui n'étaient donc pas les premiers, les a remis en liberté. Et franchement, moi, je dis aux policiers, mais je comprends, comment vous faites pour ne pas être dégoûté? Vous faites votre travail consciencieusement, avec des moyens qui ne sont pas toujours fiables et puis corrects. Et en fait, on ne vous reconnaît pas.
Sylvie, vous êtes rejoint exactement par Georges qui nous écrit de Châtenay à l'abri. Problème entre la justice et la police qui est récurrent. Hein. Les policiers sont dépités car le procureur laisse souvent, par exemple, il parle des joueurs de Bonto qui détroussent les touristes sur les ponts. Il laisse les joueurs libres. Il voit ça tous les jours. Que peut faire la police face à ça, face à cet sentiment d'impunité? Olivier Norek, capitaine de police, vous répond, Sylvie.
Il n'y a pas vraiment de défiance entre la police et la justice, mais je m'explique un peu mieux. C'est que si nous, on a des problèmes d'argent, si on a des problèmes de moyens, de personnel, la justice, elle est même. Il y a 11 000 prisons en place, 11 000 places de prison qui nous manquent. Donc, on va arrêter 7 joueurs de Bonto, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas les mettre en prison, on n'a pas les moyens, et c'est encore pire pour le premier appel qui était passé concernant les mineurs. Là, visiblement, ce sont des mineurs qui sont probablement des mineurs isolés. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour un mineur isolé, il faut un accompagnant, il faut un juge pour enfants. On ne peut pas les mettre en prison, évidemment. Donc, il faut un centre éducatif fermé, avec des éducateurs, avec une structure.
Oui, donc, elle n'a que ses yeux pour pleurer, comme 60% des Français cambriolés l'année
tout
dernière.
Tout ça n'est qu'un énorme problème de place, d'argent. Mais j'aime cette idée que quand on appelle la police vient. L'appel 17, il est très important, c'est un thermomètre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la bonne question, ce n'est pas est-ce que vous aimez votre police, c'est si vous arrive quelque chose, quel est votre premier réflexe? Et 100% des Français vous diront j'appelle le 17. Parce qu'en fin de compte, le 17, on a une totale confiance dans cette police d'intervention. Vous faites cambrioler, c'est le 17. Vous faites agresser, c'est le 17. Il y a une agression sexuelle, c'est le 17. Immédiatement, ce 17 ne souffre même pas une hésitation. Tout le monde appelle le 17. Je suis passé il y a quelques mois en Argentine, à Buenos Aires. Ils n'appellent pas leur police. Elle est tellement corrompue qu'ils n'appellent même pas leur police, ils appellent leur famille ou leurs amis. Nous, le 17 est un réflexe de confiance.
Et je vous remercie Sylvie d'avoir rappelé qu'en 2013, en effet, la police avait été applaudie, louée, chantée par Renaud notamment. Écoutez.
J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Et j'ai embrassé un flic.
Oui, c'est juste ces gestes très nombreux de la population à votre égard qui vous ont touché. Vous avez été sur le terrain, cher Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID, au moment des attentats de 2015, Hypercacher et la porte de Vincennes et le Bataclan, évidemment. Cette société d'émotion, évidemment, on était tous dedans, mais j'imagine vous a fait du bien aussi parce que vous étiez les premiers sur le terrain.
Oui, moi je suis intervenu, première intervention c'est de l'année 2015, cette horrible année 2015, c'était à Vincennes, où les policiers, les policiers de la BRI et du RAID qui sont intervenus donc sous mon autorité, ont sauvé l'ensemble ont sauvé tous les otages, il y avait 26 otages. C'était quelque chose de fort, quelque chose de grand. Mais je me souviens que avant l'intervention, quand on progressait sur des périphériques qui étaient bouchées, qu'on avait du mal à progresser, et on était en tenue, donc on était descendu des voitures et on tapait aux fenêtres pour que les voitures s'écartent, qu'elles laissent passer notre voiture de commandement. Les gens étaient 100% derrière nous, bien évidemment, mais ils étaient terrorisés. Il y avait cette exaspération, cette crainte et cette peur. La France était frappée encore au cœur. Et il y avait des paroles d'encouragement, des paroles très fortes d'ailleurs, hein, avec quelques recommandations d'action qui étaient très, très ciblées, quoi. C'était quelque chose de très fort. Et là, on sentait très bien la population derrière. Donc l'assaut qui a été filmé en direct, alors on pourrait parler de
cette surexposition.
De cette surexposition, mais là, en tout cas, ça a informé directement, qu'on le veuille pas, ça a informé directement les Français. Ça a vu l'action des forces de l'ordre d'une manière générale, du RAID et de la BRI en particulier. Et à un certain moment, ça les a rassurés et ça les a scotchés à leur police et à leur gendarmerie, aux forces de sécurité, aux forces aussi aux pompiers et aux hospitaliers. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Mais effectivement, Moi, j'ai jamais pensé, parce que j'avais une vie de policier avant, j'ai 40 ans dans la police, et avant le raid, j'avais une vie de policier. J'ai jamais pensé que... Je me suis toujours méfié. Quand on a peur, effectivement, on réagit comme ça. Mmh. Et sur le dernier attentat de Strasbourg, si vous vous souvenez bien, on était dans la période Gilets jaunes, et l'ancien Premier ministre, M. Raffarin, a fait un tweet qui résume la situation parfaitement, c'est-à-dire des merci le jeudi et des pavés le samedi. C'est cette situation schizophrène et cet ascenseur émotionnel que les flics ne supportent plus.
Bien sûr, et on vous sent très ému, évidemment, à l'évocation de ces souvenirs terribles. Jean-Michel Fourrère, je vous laisse réagir, Christophe Rouget, à ce que disait Sylvie dans un instant, juste après cette petite pause.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et la police. On retrouve Wendy Bouchard et ses invités. Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On est avec Olivier Norek, qui est écrivain, scénariste, lieutenant à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, député La République En Marche de la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Wendy Bouchard.
Avec ce chiffre, les trois quarts des Français ont une bonne image de la police. Ça veut dire qu'à l'inverse, un Français sur cinq ne fait pas confiance à la police. Et on parlera de ces Français-là, un métier qui est très soumis au climat social du moment. On le réévoquait à l'instant avec vous, Jean-Michel Fauvergue, sur ce souvenir tragique de l'hypercachère porte de Vincennes. Et Christophe Rouget, Jean-Michel Fauvergue citait ce tweet de Jean-Pierre Raffarin à l'occasion de la dernière attentat à Strasbourg sur la police, des merci le jeudi et des pavés le samedi à l'occasion d'un énième mouvement des Gilets jaunes. C'est ça ce paradoxe dans lequel vous vivez, au fond, perpétuellement.
Oui, bien sûr, parce que comme l'a dit Sylvie au début de son intervention, nous sommes dans une société de l'émotion, de l'image et de la communication. Donc on passe du jour au lendemain, en fonction de ce qui passe sur notamment les chaînes d'infos en continu, d'une sensation à une autre. Mais il faut dire qu'il y a des gens qui exploitent aussi ces réseaux sociaux. Je crois que tout à l'heure, ça a été dit, on est dans un phénomène nouveau, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et à l'occasion des Gilets jaunes, on a vu des gens qui voulaient s'attaquer à la République, et la police est le symbole du pouvoir de la République. Et on a été victime sur les réseaux sociaux de fake news, comme c'est pas possible. Encore hier, Flyrider disait qu'on utilisait du cyanure dans le lacrymogène. On a eu des images qui ont été diffusées partout, qui étaient des fausses informations. Mais on a aussi, pour changer des gilets jaunes, un autre sujet. Il y a quelques jours, malheureusement, il y a un jeune qui est mort, Ange Di Benescia, suite à un contrôle routier. On s'est fait attaquer sur tous les réseaux sociaux par des gens des artistes, par des gens de partis politiques qui ont dit, voyez, la police tue.
Suite
la
à un
police
contrôle routier, c'est-à-dire suite à un...
Suite à un contrôle routier sur Paris. Non. Sur Paris, d'accord. Un contrôle routier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été attaqué partout. En fait, ce jeune homme, et c'est malheureux qu'il soit décédé, il était au volant d'une voiture sans permis de conduire. Il était en état d'alcoolémie. Et il est mort effectivement, mais l'autopsie quelques jours après a révélé qu'il était mort parce qu'il avait ingéré 25 grammes de cocaïne. Plus personne n'a parlé de ça. Mais le mal auprès des policiers avait été fait. On avait été accusé de tous les maux, de racisme, qu'on tuait les jeunes.
C'est ça.
Non. Et ce soir-là, si quelqu'un avait croisé cet individu au volant de cette voiture, là il aurait risqué sa vie. Et la police est intervenue. Vous voyez, donc quand on intervient, on a souvent des reproches. Et si on ne fait rien, on dit mais... Vous ne faites rien. C'est ça la difficulté de ces gens qui ne nous aiment pas et qui nous attaquent sur les réseaux sociaux et qui sont très présents.
Oui, avec une nécessaire quand même exemplarité, toujours cet équilibre à trouver dans le cadre républicain. Et je pense que voilà, vous êtes les premiers à vouloir aussi traquer les brebis galeuses quand on parle de dérives policières également qui nuisent à l'ensemble de la police, aux violences aussi, à la riposte graduée. On a beaucoup reparlé de la stratégie de maintien de l'ordre. Est-ce qu'il faut utiliser ou pas les lanceurs de balles de défense, Olivier Norek? Alors vous étiez en écriture de ce livre-là, vous n'étiez pas sur le terrain, mais on en reparlera tout de même. Et Justine est avec nous au 39-21. Justine qui a des choses à dire, car elle est femme policière ou femme de policier, Justine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Alors moi, je ne suis pas du tout policière. Je suis femme de policier.
D'accord.
Donc je vis au quotidien la vie de mon mari, ainsi que celle de ses, on va dire, collègues et même amis, parce que la police, c'est une grande famille, surtout... moi, je viens faire la différence entre... les policiers, comme eux, ils s'appellent les policiers de terrain, en fait. Hein. Mmh. ceux qui subissent et qui vivent tous les jours et ben les critiques, les remises en question de nous-mêmes, hein, parce que moi je suis citoyenne française et parfois je peux émettre certaines critiques envers des fois la police, envers mon mari, parce que ne connaissant
pas... Votre
mari
qui, pour faire clair, est gardien de la paix, ça qui est CRS.
Tout à fait. Oui. Okay. Oui, tout à fait, parce que bon, des fois, quand on entend les informations, ce qu'on voit à la télé, on se dit, mais pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc oui, effectivement, mon mari m'explique ce qui s'est passé ou comment ça peut se passer, ce que eux subissent vraiment, quoi, parce que c'est vrai que nous, à travers nos écrans ou à travers ce qu'on entend, parfois on se dit, oui, c'est pas normal. Parce que, effectivement, moi, quand je le retourne...
Qu'est-ce qui vous gêne, Justine ? Parce que je vous sens un peu hésitante. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'on ne dit pas suffisamment le quotidien, la réalité de la police de terrain, justement, que voilà. Vos invités connaissent bien. Parce que Christophe Rouget, comme Olivier Norek, vous avez été, vous, gardien de la paix, Christophe Rouget.
Oui, en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, aussi, voilà. Dans le Val-de-Marne, oui. À Carcassonne, à Toulouse. On a été, comme Olivier, des gens de terrain, confrontés aux patrouilles, confrontés aux interventions sur la voie publique.
Confrontés aux problèmes de hiérarchie aussi. J'imagine. Problème de moyens, très clairement.
Bien sûr, vous savez, la police, c'est toute une famille. Il y a des gardiens de la paix, il y a des officiers, il y a des commissaires, mais on doit tous être unis pour intervenir sur le terrain parce que c'est un travail collectif, la police nationale avant tout.
Et là, j'interroge maintenant le nouveau député de La République En Marche, Jean-Michel Fauvergue, pour répondre aussi à ce que dit Justine. On a fait plusieurs émissions liées au gilet jaune en entendant des policiers qui allaient épuisés au boulot, qui faisaient des horaires interminables, parfois jusqu'à 16 heures de vacation, dont 14 heures sans manger, sans boire. Avec des policiers à bout, vraiment, qui ont été mobilisés pendant 4 mois. Et c'était ça, leur quotidien, dans une mobilité qu'on leur demande. Donc, ils traversaient parfois la France sans voir leur famille et exsangues, il faut le dire.
Oui. Oui, c'est tout à fait exact. On a sur cette dernière séquence en particulier, mais aussi, ça date d'avant, des policiers qu'on rappelle en effectif, donc qui ne sont pas avec leur famille, qui travaillent beaucoup, qui travaillent énormément, parce que l'actualité fait qu'on a besoin de ces effectifs-là. On les rappelle, des officiers et des gendarmes, je le rappelle aussi.
Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'effectifs ?
Non, ça ne veut pas dire forcément ça. Ça veut dire qu'il faut... Il y a urgence à se réorganiser beaucoup. Savez-vous que dans notre pays, si vous rajoutez les effectifs de la police et si vous rajoutez les effectifs de la gendarmerie et de la réserve de gendarmerie qui fait 30 000 personnes, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. Donc,
Environ 250 000 fliqués et gendarmes en France.
Voilà.
Ce qui est beaucoup.
Donc, à un certain moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions et j'essaye de les poser, moi,
dans le livre.
Il faut peut-être se poser les bonnes questions, peut-être restructurer aussi les choses qui n'ont pas été restructuré depuis très 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 longtemps.
Et faire en sorte d'arriver à
trouver des réponses déjà en interne sur ce vaste ministère qui est le ministère de l'Intérieur.
Avec un budget en augmentation, il l'avait promis, Christophe Castaner, Christophe Rouget, pour la police ou pas, pour le plan de finances 2019.
Il y a des efforts qui sont consentis sur la fatigue. Pour revenir à l'auditrice, oui, les policiers sont fatigués. Par exemple, le temps de travail. La France a été condamnée par l'Europe pour le temps de travail des policiers, qui n'est pas respecté.
Oui.
Et c'est toujours pas
appliqué. Temps de travail pas respecté et des jours.
Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui ne respecte pas les règles européennes sur le temps de travail. C'est quand même extraordinaire. Mmh. Et donc ça va être mis en place. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, mais je crois qu'à l'occasion de ces crises, justement, il faut qu'on pense différemment. L'organisation de la police nationale. Vous avez dit qu'il y a 250 000 policiers et gendarmes. Mais nous, disons depuis longtemps, mais pourquoi nous avons deux forces qui sont concurrentes dans tous les domaines ?
Lesquelles ?
Ça coûte cher.
Les CRS ?
Non, la gendarmerie et la police nationale. Concurrentes dans tous les domaines. Ce qui coûte très cher pour le citoyen et qui, effectivement, emploie des effectifs. Et au sein de la police nationale, nous l'avons dit à l'occasion, je crois, des Gilets jaunes, ben oui, il y avait ce problème de la préfecture de police. Nous avons une gendarmerie où il y a un chef. Et une organisation qui est claire. Et dans la police nationale, nous avons la préfecture et tout un tas de directions qui font chacun ce qu'elles veulent de leur côté. Il faut réformer tout ça si on veut avancer et justement être plus présent sur le terrain.
Voilà, je vais redonner la parole juste après la pause à Jean-Michel Fauvergue pour bien avancer et pour rendre hommage aussi à cette police avec le lien de confiance que vous avez ou pas, dites-nous-le. Jean-Marie veut réagir et va nous parler de différentes formes de police aussi qu'il a dans son panorama, dans son esprit, comme vous peut-être. N'hésitez pas à faire comme lui et nous appeler. Ma chère Julie, le standard est ouvert. Hein.
39-21, tout de suite avec Wendy Bouchard.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous poursuivons le débat avec Wendy Bouchard et ses invités. Y a-t-il un malaise dans la police ? Et comment rendre ces hommes et ces femmes plus en phase avec leur métier ?
Un malaise dans la police qui se traduit aussi par un malaise réel, physique, psychologique. On en parle avec Olivier Norek, qui est capitaine de police en disponibilité. Il écrit aujourd'hui et il a publié la semaine passée le livre Surface, enquête policière. Vous signez d'ailleurs pour les Parisiens cet après-midi à 18h, Fnac Montparnasse.
Oui, un peu de promo. Ça.
Voilà, cher Olivier. Jean-Michel Fauvergue, vous sortez aujourd'hui le livre La sécurité des Français aux éditions Michel Lafon, ancien patron du RAID et député de la République en marche aujourd'hui. Christophe Rouget est avec nous, commandant de police. Arrêtons-nous quelques instants, si vous voulez bien, sur ce malaise psychologique. 24 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année. C'est un taux 36% fois plus important que celui observé dans la population générale. Et ce ne sont pas des faits nouveaux. On a eu un pic de suicides très flagrant, 70 décès en un an en 1996. En 2015, Bernard Cazeneuve présentait un plan d'accompagnement psychologique. On sait que les suicides sont multifactoriels, mais la surreprésentation des suicides dans votre métier dit quelque chose, Christophe Rouget, évidemment, des conditions d'exercice.
Bien sûr qu'elle dit quelque chose. On est à 25 suicides, c'est-à-dire un policier tous les 4 jours qui se suicide depuis le début de l'année.
C'est énorme.
Et la fatigue de ces dernières semaines est un des éléments. Mais si on regarde bien, sur 25 ans, on est à peu près 1200 policiers qui se sont suicidés. Mmh. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Et malheureusement, on a mis en place, il y a eu des efforts qui ont été faits, je crois qu'il faudra les développer, des efforts de prévention, des psychologues qui interviennent, mais il faut surtout revenir aux fondamentaux. Pourquoi le policier a perdu du sens dans son métier? Pourquoi on ne respecte pas le temps de travail? Pourquoi il y a des conditions qui ne lui permettent pas d'être bien dans son métier? Parce que son commissariat est parfois plus dégradé que là où travaillent les délinquants. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre sur des lois de programmation dans le long terme pour favoriser déjà des conditions de travail qui soient correctes. Il faut aussi peut-être retrouver un peu de confiance, de cohésion entre policiers. La maison police a perdu, s'est distendue parce qu'elle est divisée entre directions, entre corps hiérarchiques. Il faut qu'on retrouve de la cohésion, qu'on puisse faire du sport ensemble, qu'on puisse faire des choses comme ça, où les gens se retrouvent et échangent, parce qu'on a un métier qui est compliqué. Quand on annonce la mort à quelqu'un, quand on va sur des scènes de crime, quand on voit cette face noire de la société, on emmagasine tout ça. Et si on a des problèmes dans sa vie privée, alors parfois, ça s'accumule et on bascule.
Bien sûr, il y a 72% des personnes interrogées dans le même sondage que ceux qui font confiance à 76% à la police. 72% des Français qui jugent que les policiers ne sont pas assez formés. C'est-à-dire derrière, on n'imagine pas assez armés psychologiquement pour faire face à toute cette violence. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Norek ? C'est la perception, en tout cas, des Français.
Oui, je peux la comprendre. Est-ce qu'on est jamais armé pour ne pas être aimé ? En fin de compte, on nous le dit même à l'école des gardiens de la paix ou à l'école des lieutenants. Vous signez pour un métier où il n'y a pas de reconnaissance. Vous n'aurez pas de merci. N'attendez pas ça. Si vous devenez policier pour être aimé, c'est un très très mauvais calcul. Donc il y a ce concept de punching ball où on rend.
Au contraire, des pompiers qui sont plébiscités. Hein, 99% des Français.
Oui.
Ils ont la même mission de service.
Ils ont une mission entièrement de protection. Ouais. On a aussi des missions parallèles qui ne sont pas que de la protection. Mmh. On a aussi de la répression. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette différence. Mais quand on dit à quelqu'un, un policier peut répondre à cette question. Tu es sûr de faire ce métier? Tu ne seras pas reconnu ni remercié. On a beau dire oui, mais l'être humain quand même, il ne supporte pas ça d'être constamment repoussé. Alors voilà, ça nous fait des policiers un peu mal aimés. Et si en plus de ça, on rajoute que par exemple en PJ dans le 93, le quotidien c'est entre 10 et 14 heures par jour. alors que normalement c'est 8 heures, on fait en gros 6 heures supplémentaires par jour, entre 2 et 6 heures supplémentaires par jour.
Ouais.
Et encore, là je parle de la police judiciaire, je voudrais revenir sur le témoignage de Justine tout à l'heure. La police judiciaire, c'est quand même légèrement plus soyeux que le commissariat ou que CRS. C'est vrai que dans les commissariats, les patrouilles, les bacs, les îlotiers sont au contact constant de cette population, au contact constant des gens en cassure, en faille. Moi, sur mes dernières années, j'étais en police judiciaire. C'est vrai que c'est plus simple. On nous apporte la procédure, on nous apporte l'enquête et c'est à nous de trouver l'assassin. Là, on arrive plutôt vers le roman, on arrive plutôt vers ce qu'on peut voir dans les séries télévisées. Mais la réalité, les informations, elles viennent d'où ? Elles viennent de ces flics de terrain, viennent de ces flics des commissariats. C'est eux qui nous font remonter la criminalité, la délinquance, une sorte de radiographie de ce qu'est notre ville ou de notre département. Et c'est vrai que c'est presque pas le même job entre police judiciaire et flics de terrain ou commissariat. Parce qu'eux, ils sont au contact constant. Nous, on a quand même plusieurs filtres en police judiciaire avant que tout ça nous arrive en plein visage.
Et comment on prend soin d'eux ou on ne prend pas assez soin d'eux, Jean-Michel Fauvert, je vous fais juste réagir à ce sujet après la pause. À tout de suite. Le tour de la question, la suite sur l'image que l'on a de la police. Et comment mieux prendre en charge aussi la détresse psychologique des policiers de terrain ? Est-ce que le nouveau budget, 1 milliard pour la police, pour la gendarmerie, Jean-Michel Fauvergue, là je pose la question aux députés, pourra commencer à soigner un peu les plaies en donnant davantage de moyens, aussi matériels à ces hommes et à ces femmes ?
Alors les 1 milliard, c'est une augmentation sur 2 ans du budget pour les véhicules et le bâtimentaire, à la fois police et la gendarmerie. L'accompagnement psychologique existe déjà, mais ce que je voudrais rajouter sur le budget, ce qu'il y a d'énorme, c'est que sur le budget de la police, c'est à peu près, on va dire, 11 milliards d'euros, un tout petit peu plus, 87% est consacré à la rémunération des policiers, rémunération accessoire. C'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose pour
Et je rappelle les 23 millions d'heures impayées aussi,
voilà.
Hein, le reliquat.
Et les gendarmes, c'est 83%. Donc il reste peu de choses, c'est-à-dire que le budget sur lequel on peut bouger les choses est très bas. Et c'est là-dessus où normalement, on devrait pouvoir avoir un plan pluriannuel pour faire en sorte de rentrer dans une vraie police et gendarmerie du 21e siècle,
c'est ça.
Celle dans laquelle on n'y est pas encore. Alors sur le suivi effectivement des suicides et du mal-être de la police, il y a une vraie perte de sens effectivement dans la police. Parce que le jeune flic, le jeune officier, le jeune commissaire vient pour servir. Il vient parce qu'il se met au service de la population. Il y a une vraie vocation de la police. On est au service de la population.
Ils se sont parfois abandonnés.
On aime
ce
job-là. Et quand on passe pour la police judiciaire dans les commissariats, je ne parle pas de la police judiciaire du SDPJ 93, dans les commissariats, quand on passe 20 heures sur une affaire qui ensuite est classée et dont on sait qu'elle aurait pu être classée dès le départ par le procureur de la République, mais qu'on est obligé de faire une enquête demandée par les magistrats au cas où, à un certain moment, il y a quand même un problème. Effectivement, on a eu le cas, on voit des gens qui... des agresseurs, des gens enfin qui font des délits, qui ressortent plus vite que la procédure est terminée au niveau des commissariats. Ça pose un problème de réponse immédiate. Pas forcément de prison, mais de réponse immédiate.
Il y a un petit mot, une petite question de Françoise qui a du sens. Elle nous écrit de Paris. Pourrait-on demander aux policiers présents le taux de divorce dans la police ? On parlait de suicide tout à l'heure, mais le divorce a traduit aussi la difficulté de la mission. Et l'isolement aussi, Christophe Rouget. Alors, je ne sais pas si vous avez le chiffre.
Mais... Je n'ai pas le chiffre, mais de manière empirique, on peut constater qu'il y a un taux de divorce qui est important chez les policiers. C'est un des facteurs du malaise apparent, mais effectivement, ce n'est pas le seul pour Corona. Comme on disait tout à l'heure aussi, d'abord, on a les séries, les livres, donc on a tous ces jeunes qui veulent rentrer dans la police nationale, et puis après, qui se retrouvent dans un métier qui est quand même très différent. L'audition se fait derrière un ordinateur, on a beaucoup de paperasserie, on n'est pas dans un film où tout d'un coup...
Tout se fait à l'oralité en 5 minutes.
Voilà, mais on se retrouve aussi avec des gens qui sont dans une région, qui arrivent tout d'un coup, mutés sur Paris, et qui se retrouvent tout seuls, en banlieue parisienne, dans des conditions difficiles, avec un salaire qui est faible. Et donc là, vous avez aussi un problème de racines, et un problème tout d'un coup d'être confronté. Vous étiez en train de faire vos études, vous arrivez, vous êtes à la faculté, et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans la rue, à faire des patrouilles, avec toute cette face noire que vous n'aviez pas vue, parce que vous étiez dans un milieu social, peut-être, qui était plus protégé,
différent.
Et avec
un collectif assez absent.
Et donc là, vous vous retrouvez là, et donc, effectivement, on a des taux de suicide qui sont différents en fonction de nos métiers, moins dans la police judiciaire, parce qu'on travaille ensemble, il y a plus de cohésion, moins chez les CRS et les gendarmes, par exemple, aussi, parce qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ce qu'il faut regarder, je crois, pour l'avenir aussi. Regarder quel est l'ADN de chaque policier qui s'est suicidé. Ouais. Pourquoi il en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il a subi? Combien il a annoncé de décès? Combien il a vu de morts? Combien il a eu d'affaires difficiles pour essayer d'arriver à avoir des profils et de protéger les policiers pour l'avenir?
Chapeau à la police, nous écrit Patricia. Fille de policier, je suis fière. Il pense qu'il devrait avoir plus de pouvoir, nous écrit Nicole de Bougival. Énormément de femmes qui réagissent, c'est intéressant. On parlera d'ailleurs un jour des femmes de policiers. Voilà, l'envers aussi du décor qui décrypte bien votre mission, vos missions au quotidien. Olivier Norek, merci de votre présence. Vous avez publié il y a quelques jours Surface. En un mot, qu'est-ce que c'est, Surface ?
En un mot, une flic qui va devoir enquêter sur la disparition de 3 enfants, sauf que cette disparition, c'était il y a 25 ans, et ça s'est passé dans un village qui est maintenant recouvert par 36 mètres d'eau.
Intéressant. C'est chez Michel Lafon et grande signature à la FNAC Montparnasse à 18h. Et merci Jean-Michel Fauvert, vous lirez ce livre programmatique. C'est le député aussi qui s'exprime, ancien patron du RAID, sur la sécurité des Français. Oui. Et ce qu'il faut réformer pour être plus opérant et soigner ces hommes et ces femmes qui...
Mais c'est pas une question, il faut réformer.
Il faut. Chez Michel Lafon, la sécurité des Français. Merci beaucoup, messieurs. Okay. À très bientôt et on se retrouve dans un instant pour parler des jeux vidéo.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.